chers collègues.
Les quatre saisons.
Welcome Annie Derin.
La politique est un cycle, avec ses promesses, belles et fragiles comme le printemps.
Nous avons un beau projet.
Thank you, Monsieur.
Ses succès, brûlants comme l'été.
Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution.
Merci, Monsieur le Premier. Nous pouvons.
Ses trahisons, tumultueuses comme l'automne.
L'image que nous renvoyons à la population est absolument dégueulasse.
That's not Michael Jackson, hein?
Ses échecs, ses crises, longues et stériles comme l'hiver.
Le respect mutuel permet de s'écouter.
Le Vivaldi, c'est la fin de la Belgique.
Baptiste Tupin, Imad Messoudi.
Bonjour Baptiste.
Bonjour Imad.
Nous sommes début mars et c'est bientôt la journée de la femme.
Le gouvernement de Croo est le premier gouvernement fédéral qui compte autant d'hommes que de femmes, c'est historique.
Mais on verra qu'au niveau de l'égalité homme-femme, la Vivaldi s'est construite sur quelques casseroles.
Les quatre saisons, la politique belge racontée à l'ère de la Vivaldi.
Vous savez qu'on est un pays compliqué, hein.
Hiver.
Sani Bonane Nante.
Vous aussi, cette voix vous dit quelque chose. Non, ce n'est pas une rockstar.
Let's do something fun.
C'est votre premier ministre.
We are here tonight.
À l'époque, Alexander De Croo est encore ministre de la coopération au développement. Dans un stade plein à craquer de Johannesburg, il annonce un investissement pour l'égalité homme-femme.
43 million euros.
Avec une certaine conviction.
So when I say she is, you scream equal.
Oui,
right?
Notre premier ministre se déclare féministe.
She is.
Alors, avec Alexander De Croo à sa tête, on s'est demandé cette semaine ce que le gouvernement fédéral allait vraiment faire en faveur de l'égalité homme-femme.
Ce gouvernement combat toutes les formes de discrimination, notamment celles à l'encontre des femmes.
Comment la Vivaldi peut changer le sort des femmes au-delà des slogans.
Favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.
Alexander De Croo a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet, dont il a habilement replacé le titre
« Le siècle de la femme »
dans sa déclaration de politique générale.
Et c'est précisément pour cette raison que ce gouvernement est à parité homme-femme. C'est une étape historique dans notre pays, dont diversité est stärker.
Et pourtant, au même moment, alors que tous les partenaires de majorité applaudissent ces déclarations du Premier ministre au Parlement européen, le MR se déchire.
Je ne suis pas très fier d'être libéral pour le moment.
Au départ d'une question de genre.
Bonjour Georges-Louis Boucher.
Ce matin-là, Georges-Louis Boucher.
Bonjour.
Joue aux chaises musicales avec les postes de ses ministres.
On n'a pas encore tous les noms.
Il ne veut rien dévoiler.
Non.
Sur le nouveau casting ministériel du MR.
Ils seront communiqués sur les réseaux sociaux du mouvement réformateur aux alentours de 9h. Si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre nos pages.
La surprise sera de taille.
Et le premier surpris dans cette désignation, c'est moi-même.
Mathieu Michel est catapulté au gouvernement fédéral.
Quand on vous appelle à 9h du matin en disant « voilà, dans une heure, tu prêtes serment », j'étais très surpris, effectivement.
Résultat, Denis Ducarme perd son portefeuille ministériel, mais il reçoit le poste wallon de Valérie Debut.
Le président du MR, Georges-Louis Boucher, a jeté le trouble aujourd'hui au gouvernement wallon.
Or,
mais aussi
en excluant Valérie Debut, Georges-Louis Boucher rompt l'équilibre de genre au gouvernement wallon.
En Wallonie, en fait, il existe la parité de tiers un tiers au sein du gouvernement.
Pour respecter cette règle qui assure une présence minimum de femmes au gouvernement wallon, Georges-Louis Boucher doit faire marche arrière.
Monsieur Ducarme.
Valérie Debut reste ministre wallonne.
Bah écoutez, nous sommes des gens de bonne volonté.
Denis Ducarme perd son poste.
C'est pas facile à vivre.
En soutien à Valérie Debut, une autre ministre wallonne, Céline Tellier, poste une photo devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle pose avec d'autres ministres et députés wallonnes avec ce commentaire. Nous sommes plus qu'un quota. Et cet épisode n'est pas le seul couac à l'égard du droit des femmes que la Vivaldi a connu dans sa formation chaotique. Souvenez-vous cet été. Un dossier empoisonne les négociations fédérales.
Tout le monde sait que des sujets comme l'avortement, c'est très sensible.
L'assouplissement des conditions d'interruption volontaire de grossesse.
Le délai légal pour l'avortement va-t-il être prolongé jusqu'à 18 semaines de grossesse ?
Après des mois de débats, le texte est enfin prêt à être voté à la Chambre. Mais le CDNV est contre.
Tout le monde sait que c'est important pour nous.
À plusieurs reprises, son président en fait un point de rupture des négociations.
Dat is voor ons een heel belangrijk punt.
Een breekpunt ?
Ja, natuurlijk is dat breekpunt. Heb ik ook altijd al gezegd.
Le débat sur l'IVG devient alors une monnaie d'échange dans la formation fédérale.
Je suis prêt à discuter.
Et les partis qui se battaient pour cet assouplissement depuis des années acceptent soudain de reporter le débat parlementaire.
Quand on parle de la vie et de la mort, quand on parle de la maternité, évidemment, c'est toujours extrêmement sensible, ça nous touche.
Alors les intentions de cette coalition vis-à-vis des droits des femmes sont peut-être sincères.
Parce que c'est bien le siècle de la femme.
Mais dans la jeunesse de la Vivaldi, il y a le renoncement à en faire un combat prioritaire. Sans ce péché originel, ce gouvernement n'aurait probablement pas vu le jour. Voilà, Imad, on aura donc appris dans cet épisode que non seulement Alexander de Croo est féministe, mais il est aussi chauffeur de salle, ou en tout cas il a manqué une vocation.
Il aurait pu devenir un chanteur à la Bono.
Bon, ici ce qu'on voit, c'est un vrai paradoxe dans ce gouvernement qui à la fois affiche des ambitions très fortes en matière d'égalité homme-femme, mais qui pour 6 partis en tout cas de la majorité a dû renoncer à quelque chose qui était très important pour lui, à savoir l'assouplissement de la loi sur l'avortement.
Plus qu'un paradoxe, c'est absolument terrible. Ça doit être vraiment déchirant pour les actrices principales de cette histoire. On pense à Eliane Thilieu, qui dirige la Chambre, à Sarah Schlitz, qui était très active également, ou à Karine Lalieu, qui a longtemps bataillé pour ça lorsqu'elle était députée fédérale.
Ils sont maintenant 3 membres de ce gouvernement, ou en tout cas représentantes de la majorité pour Eliane Thilieu.
Et elles doivent avaler une couleuvre terrible de voir que une majorité de partis au sein de la Vivaldi sont prêts à revoir l'IVG. Et malheureusement, parce qu'il y a un seul parti, le CDNV, qu'il faut respecter, comme disait Paul Magnette, eh bien ça tombe à l'eau. C'est plus qu'un symbole, c'est le corps des femmes, c'est quelque chose qui est extrêmement sensible, qui touche la moitié de la population belge. Et devoir renoncer parce qu'un parti n'en voulait pas, c'est difficile.
Après, le débat reviendra au Parlement et c'est aussi le principe d'une négociation, c'est de devoir faire des concessions.
C'est vrai, mais on sait très bien comment ça fonctionne. Ça va revenir au gouvernement si ça commence à être compliqué pour le CDNV. Et je pense qu'on peut dire que le gouvernement ne tombera pas sur l'IVG, sinon il n'aurait pas été formé, en fait.
Oui. Alors, ce gouvernement, alors qu'il n'a que quelques mois, il a déjà avancé sur certaines questions. D'abord, ce symbole, nous sommes ici fin novembre et c'est une annonce du ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne.
Je suis particulièrement heureux de pouvoir vous présenter cette mesure importante avec le passage de 10 à 15 jours de ce congé de naissance et donc principalement et singulièrement pour les papas et les coparents.
Alors les mauvaises langues diront ici que c'est plutôt un cadeau fait aux hommes, aux pères, mais en réalité c'est une avancée qui plaide en faveur d'un partage des tâches à la maison.
Tout à fait, tout à fait. Il s'agit de créer un lien avec l'enfant lorsqu'il est petit, qui doit amener plus tard à une répartition plus égalitaire des tâches. On sait que pour les femmes, c'est la maternité qui rend difficile une carrière professionnelle. On a un contre-exemple, évidemment, avec Sophie Wilmès.
Oui, Sophie Wilmès a sans doute fait bouger pas mal de choses en termes de symboles. Autre symbole important qu'on a mentionné, c'est cette parité homme-femme dans le gouvernement de Croo, une parité qui s'accompagne aussi de compétences importantes données à certaines femmes ministres.
Oui, on n'a pas l'habitude de voir une ministre de la Défense femme. C'est la première fois dans l'histoire de la Belgique avec Ludivine Donder. On peut penser à l'intérieur avec Annelies van Linden, même si Joël Miquet avait déjà occupé le poste. On peut penser aussi aux pensions avec Karine Lalieu, ouais. Et puis la présidence de la Chambre également, pour la première fois, avec Eliane Thilieu. C'est intéressant parce qu'on a des compétences qui ne font pas partie du care. Le care, c'est un terme anglais qui signifie en fait le soin. Habituellement, les femmes, on va leur donner des compétences du type l'enseignement, des compétences où les femmes doivent s'occuper des hommes, des autres. Donc là, ici, on a des choses qui sont un petit peu plus positives que sous le précédent gouvernement. Un dernier élément qui est important, dans le gouvernement Michel, il n'y avait pas de femmes au comité ministériel restreint, le CIRN. Cette fois-ci, on en a deux, avec Petra de Sutter et
Sophie Wilmès.
Alors, on va pas continuer ensemble, toi et moi, Baptiste, à évoquer ces questions-là. Je suis allé voir Caroline Claus, qui est professeure de sciences politiques à l'ULB Charleroi, qui, justement, s'intéresse beaucoup à ces questions. Je suis allé à l'université, c'était sympa, on va un petit peu entendre de la vie. Et avec elle, on a un petit peu brossé le portrait de ce gouvernement Vivaldi sur la question des femmes. Et vous allez voir, tout n'est pas au beau fixe. On commence cet entretien avec le point de vue de Caroline Claus sur la communication d'Alexander de Croo autour de son fameux livre « Le siècle de la femme ».
Alors bien sûr, c'est positif de se dire que notre Premier ministre a réfléchi à la question, aux enjeux. Après, de ce qui m'a paru transparaître dans les interviews qu'il en a données, il a pu le faire de manière maladroite à certains égards. On se rend compte que les femmes ont des compétences et donc d'un point de vue économique, ce serait bien de les mobiliser. Et en fait, on est un peu bête de les cantonner à la sphère du foyer parce qu'en fait, elles sont brillantes. Donc c'est à la fois positif et à la fois un peu gênant d'entendre ce genre de propos. Et puis, dans certains extraits de ces interviews, il disait que les hommes devaient accompagner les femmes dans leur émancipation, comme si de nouveau on plaçait les femmes dans une position de victime et que les hommes étaient là pour les aider à s'émanciper et à sortir de leur condition un peu de minorité opprimée. Quand on regarde la longue histoire de la domination masculine des sociétés, moi je trouve que c'est quand même, je vais pas dire choquant, mais je trouve qu'il faut réfléchir à la manière d'aborder les choses.
Est-ce qu'on peut dire que les femmes dirigent différemment ou est-ce que c'est essentialiste de le dire, c'est lier la femme à une façon de faire comme une femme, entre guillemets?
Je ne pense pas que les femmes et les hommes exercent le pouvoir de manière différente. Je pense qu'il y a une diversité de manières d'exercer le pouvoir, avec à l'extrême voilà, un comportement très autoritaire, une volonté d'aller au clash, versus une manière de faire de la politique plus dans la négociation, le compromis, la recherche du consensus. Ça dépend aussi par qui ils ont été formés. Et ça, ce sera intéressant de regarder un petit peu les parcours politiques et de se dire, bah, tiens, si on a fait ses armes auprès de quelqu'un qui était fort dans la confrontation, est-ce que nous-mêmes, en tant qu'hommes et femmes politiques, on va reproduire une manière de prendre des décisions, une manière de gérer des équipes.
Alors justement, question scandaleuse, si on conclut qu'une femme politique ne dirige pas nécessairement différemment qu'un homme politique, à quoi ça sert d'avoir des femmes politiques?
Je crois que c'est important pour le symbole. Ça peut être perçu de deux manières différentes, parce qu'il y a des gens qui vont continuer à penser qu'elles ne sont là que pour le nombre, qu'elles ne sont pas compétentes, etc. Mais en fait, le fait d'être arrivé à un point où on a des ministres à qui on confie des ministères régaliens, des dossiers compliqués, c'est le résultat d'une évolution de long terme où, à un moment donné, on a dû imposer certaines règles comme les quotas à une époque où les femmes en politique, c'était pas quelque chose qui était forcément bien vu et ça dépend des milieux, mais voilà, une femme en politique, c'était forcément quelqu'un qui allait moins bien faire le boulot. Là, je pense qu'on a un moment charnière où on se rend compte que cette vision négative des femmes en politique et l'a priori qu'on a qu'elles vont mal faire leur boulot est liée au fait qu'elles ont été cantonnées au foyer pendant des siècles et que c'est seulement maintenant qu'on comprend ça et qu'on se dit, tiens, en fait, peut-être qu'il faudrait repenser carrément toute la parentalité et faire en sorte que hommes et femmes aient exactement les mêmes droits et les mêmes libertés en termes de parents pour que dans la sphère public et dans la sphère professionnelle, il soit à égalité. Qu'on n'ait plus des interruptions de carrière plus longues pour les femmes, qu'on n'ait plus du coup des pensions plus basses pour les femmes. Et là, il y a un nœud sur lequel je crois les politiques hommes et femmes commencent à prendre conscience de ce problème pour ne plus que dans toutes les sphères, sa politique sociale, économique et dans tous les milieux à responsabilité, on ne se dise plus les femmes, on ne peut pas faire confiance à une femme, on ne va pas nommer une femme parce que à un moment donné de sa vie, entre 30 et 45 ans, elle va devenir mère. Son mari a un job où il doit rester tard au boulot, ben c'est elle qui se sacrifiera et devra rentrer à 18h à la maison.
Alors certes, on avance en termes de représentativité, mais lorsqu'on regarde en coulisses, dans les cabinets, on se rend compte quand même que les hommes restent largement majoritaires dans les fonctions importantes, en l'occurrence les fonctions de direction, de cabinet, direction de la communication. Un rapide calcul montre qu'il y a 58 hommes et 11 femmes qui ont le statut de directeur ou directrice. Ça représente que 15% de femmes à ces postes-là. Est-ce que ça signifie que la politique, parce qu'au niveau fédéral reste largement dominé par les hommes et qu'on est encore au début du chemin.
C'est vrai que quand on regarde qui sont les chefs de cabinet par exemple, il y a vraiment une majorité d'hommes. Est-ce que c'est la faute des ministres directement et la faute du politique directement dans la sélection et dans la nomination des personnes? Je n'irai pas jusque-là, je pense que c'est très représentatif de tendances du monde non politique, du monde économique, du monde social, du monde culturel. Donc pour moi, ça, c'est juste le reflet de tendances, de fond de la société et c'est ça qu'il faut changer. Et il faut faire en sorte que hommes et femmes pensent leur avancement professionnel, enfin qu'ils puissent le penser de la même manière et que toutes les contraintes qui sont liées au fait d'être une femme, elles n'existent plus.
Merci Imad pour cette interview avec Caroline Close, qui est donc professeure de sciences politiques à l'ULB Charleroi. Et on retiendra donc de ses propos qu'il y a encore un peu de travail.
Et même beaucoup de travail.
Et voilà, c'est tout pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour un nouveau numéro des 4 saisons.
À bientôt.
Les 4 saisons, un podcast de Baptiste Tupin et Imad Messoudi. Mis en musique par Jérémy Boquet. Thank you.